Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Notre monde est certainement préoccupé par la question des origines. Nous en entendons parler. Nous lisons à ce sujet tout le temps. Presque chaque édition du journal, chaque édition des grands magazines de notre nation discute des origines, pourquoi les choses sont devenues telles qu'elles sont, soit en termes de l'univers physique, soit en termes d'univers spirituel, en termes de sociologie humaine ou d'anatomie humaine. Pour connaître la vérité sur les origines, nous devons retourner à la Bible. Dieu nous a donné l'histoire des origines dans le livre de la Genèse. Dans Genèse 1 et 2 se trouve l'origine de l'univers physique, tel que nous le connaissons. Dans Genèse 3 se trouve l'origine du mal. Rendez-vous dans votre Bible au chapitre 3 de Genèse. Je veux lire ce passage juste pour qu'il soit dans votre esprit. Après les 6 jours de la création de Dieu, il s'est reposé. Tout ce qu'il avait fait, selon le chapitre 1, verset 31, était très bon, et Dieu s'est reposé. Il avait créé un univers parfait. Mais nous vivons dans tout sauf dans l'univers parfait. Il y a une raison. Quand vous arrivez au chapitre 3, une scène dramatique se déroule, et c'est la raison pour laquelle le monde est tel qu'il est. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et... ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le vrai diagnostic de la condition humaine découle de cet événement. Dieu, le Créateur de l'univers, est tout bon et seulement bon. Sa création originale était toute bonne et seulement bonne. La bonté de sa création reflétait la bonté de sa nature. Maintenant, laissez-moi devenir un peu philosophique avec vous ici. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Si Dieu créait le mal, alors Dieu serait à la fois bon et mauvais. Si Dieu était à la fois bon et mauvais, il n'y aurait aucun espoir pour le triomphe ultime du bien que la Bible promet. Si Dieu était lui-même mauvais, il ne pourrait donc pas triompher du mal. Donc le bien ne pourrait pas triompher. Si Dieu était la source du mal, il devrait être lui-même mauvais. S'il était lui-même mauvais, alors il ne pourrait y avoir aucune base pour le salut. Car Dieu ne pourrait pas nous sauver du mal si le mal était dans sa nature. Ainsi, la révélation biblique de la bonté originelle de la création protège la bonté de Dieu. Cela met la source du mal en dehors de Dieu. Ce n'est que si la source du mal est en dehors de Dieu que Dieu peut vaincre le mal et que Dieu peut sauver les pécheurs du mal. Juste comme note de bas de page à cela, si Dieu a utilisé n'importe quel type d'évolution pour créer, l'évolution dépend de la décadence et de la mort, de tous les effets ou réflexions du mal. Donc, si Dieu a utilisé n'importe quel type d'évolution pour créer, alors Dieu est l'auteur du mal. Il a créé la décomposition et il a créé la mort. Si Dieu a utilisé une forme quelconque d'évolution, alors sa création n'était pas entièrement bonne. Elle n'était pas parfaite quand il l'a créée. Et c'est ce qu'elle est maintenant, à cause de la décomposition et de la mort, qu'il a dû utiliser dans sa création, qui sont des preuves du mal. Alors Dieu lui-même doit être mauvais. Notre Dieu n'est pas mauvais. Dieu est tout bon, et seulement bon. La question est alors, d'où vient le mal? La réponse à cela et que nous ne savons pas ce que nous savons de la Bible. Il est vraiment inutile de spéculer à ce sujet. Personne ne dirait qu'il y a du mal dans le monde. Tout le monde l'admet. Tout le monde n'admet pas que nous sommes totalement dépravés et que nous avons le péché originel en nous. Tout le monde n'admet pas que nous sommes méchants et misérables au fond. Mais tout le monde admet qu'il y a du mal dans le monde, dans une certaine mesure. En fait, le problème du mal dans le monde a vraiment occupé les meilleurs esprits de l'histoire. Certes, nous serions d'accord dans notre propre pays, dans l'histoire de notre propre pays. Il n'y a jamais eu de plus grand cerveau, de plus grande capacité mentale que celle dont jouit Albert Einstein. Pas seulement le plus grand scientifique de ce siècle, mais peut-être le plus grand intellect que nous ayons connu dans les temps modernes. Pour Albert Einstein, juste à titre d'illustration, le grand scientifique qu'il était, le grand esprit qu'il était, la barrière intellectuelle la plus dure à la foi chrétienne, n'était pas la question de Dieu créant le monde. La raison simple, la raison de cause à effet, n'était pas difficile à saisir pour Einstein. Il a vu que l'univers était un effet et qu'il devait avoir une source. Il a vu que l'univers était conçu et qu'il fallait un designer. Il a vu qu'il était ordonné et qu'il devait sortir d'un esprit ordonné. Donc Einstein a conclu qu'il doit y avoir un esprit derrière l'univers. Il a rejeté l'idée que la matière se cognait sans cesse dans l'espace jusqu'à ce qu'elle se forme au hasard dans l'univers qui existe maintenant. Comme il l'a dit, cité, l'univers révèle une intelligence d'une telle supériorité qu'elle éclipse toute intelligence humaine. Non, Einstein n'était pas déconcerté par Dieu en tant que créateur. Ce qui a vraiment entravé Einstein était quelque chose de bien plus difficile que la doctrine de la création. C'était le problème du mal et de la souffrance. Il savait qu'il devait y avoir un designer. Il s'inquiétait du caractère de ce créateur. Comment Dieu pourrait-il être bon, tout en permettant que des choses terribles arrivent aux personnes? Einstein ne pouvait pas résoudre le problème du mal et de la souffrance avec un Dieu bon, et il s'est donc complètement détourné du Dieu de la Bible, le Dieu en lequel il avait été élevé dans le judaïsme. Ce qui a vraiment fait trébucher Einstein, c'est qu'il était un déterministe. Autrement dit, il considérait les êtres humains comme des machines compliquées. Il les avait faire simplement ce pour quoi ils étaient programmés, par des forces naturelles et irrésistibles. En fait, Einstein a conclu que les êtres humains étaient comme des jouets à remonter. Vous les enroulez, et ils font ce pour quoi ils sont fabriqués. Si tel est le cas, a-t-il conclu, il ne peut y avoir de morale. Il ne peut y avoir de bien ou de mal. Le péché ne peut exister. Il ne peut y avoir de culpabilité. Si les actions d'une personne sont déterminées, s'il n'est qu'un jouet à remonter, enroulé par un esprit cosmique, pour faire ce qui a été conçu pour lui, alors il ne peut pas être responsable de ce qu'il fait devant Dieu. Lui, a déclaré Einstein, n'est pas plus responsable de ce qu'il fait qu'une pierre est responsable de l'endroit où elle va quand quelqu'un la lance. Qui est responsable? Dieu doit être responsable, a conclu Einstein. Mais si Dieu est responsable, alors il ne peut pas être un Dieu bon, ou alors il est responsable du mal. Si Dieu est responsable, le Dieu du judaïsme ou le Dieu du christianisme, alors il nous fait faire de mauvaises choses, aussi bien que des bonnes choses. Si, disait Einstein, Dieu était comme cela, il se jugerait constamment comme mal. Il ne pourrait pas accepter cela. Je ne pouvais pas accepter que Dieu puisse être à la fois bon et mauvais. Ainsi, il a déterminé qu'il n'y avait pas du tout de Dieu personnel. Il a rejeté le Dieu du judaïsme. Il a rejeté le Dieu du christianisme. Rejeté le Dieu de la Bible. Et il a conclu que Dieu existe en tant qu'esprit cosmique impersonnel. Simplement une force rationnelle qui a donné au monde sa structure rationnelle. Ceux d'entre vous qui ont étudié la philosophie en concluraient qu'ils croyaient au Dieu de Spinoza. Le prémisse d'Einstein, selon lesquels les êtres humains n'étaient que des robots reposés sur le fait qu'un esprit impersonnel et rationnel créait ces robots. Mais il ne pouvait pas être un Dieu personnel, avec une nature personnelle. Einstein avait tort, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, quand je parlais d'Einstein dans un autre contexte. Il ne l'a jamais compris. Il n'est même pas venu au point où il a pleinement compris Dieu comme la force de la création. C'est pourquoi il n'a jamais été satisfait et est mort sans avoir vraiment identifié le vrai pouvoir dans l'univers. Mais Einstein avait tort à propos de Dieu, car Dieu est un Dieu personnel. Dieu n'est pas responsable du mal. Le problème avec Einstein, c'est qu'il ne voulait pas croire ses propres écritures, les écritures du judaïsme. Maintenant, quand il s'agit de l'origine du mal, vous avez plusieurs options. Ce sont les options courantes. Vous pouvez prendre l'option d'Einstein. Tout d'abord, qu'il existe un pouvoir cosmique, inconnaissable, impersonnel, une sorte de pouvoir rationnel quelque part, sans personnalité, sans relation, sans capacité de se connecter à nous, mais un pouvoir cosmique éternel, un pouvoir rationnel qui a tout lancé dans notre univers. Vous pouvez adopter ce point de vue. Il n'est pas personnel. Il ne peut pas savoir ou être connu. Ou vous pouvez prendre une deuxième vue. Vous pouvez considérer que Dieu n'existe même pas. C'est le point de vue de l'intellectuel athée qui dit « Non, il n'y a pas de force, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'esprit rationnel, il n'y a absolument rien là-bas. La réalité s'est faite. Comme il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de mal, et il n'y a pas de bien en réalité. Ce ne sont que des déterminations soumises que les êtres humains inventent, mais il n'y a pas de vrai bien ou de mal. » Ou vous pouvez prendre un autre point de vue. Vous pouvez considérer que la souffrance, le mal et la mort n'existent pas vraiment. Dieu est bon, et donc tout est bon. Vous pensez juste que ce n'est pas bon. C'est-à-dire que le mal est une illusion, la souffrance est une illusion, et la mort est une illusion. Vous dites, qui dans le monde croit cela? La science chrétienne le croit. La science chrétienne, mes amis, n'est ni chrétienne ni scientifique. C'est comme les noix de raisin. Vous en avez déjà mangé? Ce n'est pas du raisin ou des noix. La science chrétienne n'est ni chrétienne ni scientifique. Elle est mal nommée. Quatrièmement, vous pourriez dire que Dieu est au-delà du bien et du mal. Dieu est transcendant, et il ne peut être défini par aucun concept humain. Cela se rapproche beaucoup de la perspective d'Einstein, à savoir que Dieu ne se mêle même pas de ce genre de choses ici. Il est bien au-delà de cela. Peut-être le Dieu des déistes. Il est le Dieu qui enroule tout, mais qui est impassible, insensible à tout cela. Ou bien, vous pouvez considérer, de plus en plus populaire aujourd'hui, que Dieu a un pouvoir limité. C'est une nouvelle théologie qui émerge très rapidement, et c'est difficile à croire, mais il est dans le cadre du christianisme évangélique. Cela s'appelle la théologie des processus. C'est l'idée que Dieu est en cours, que Dieu essaie d'arriver là où il veut aller, tout comme nous essayons d'arriver là où nous voulons aller. Ces mauvaises choses arrivent, parce que Dieu ne peut pas les arrêter. C'est le Dieu en difficulté du rabbin Kushner, qui a écrit « Quand de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, vous souvenez-vous de ce célèbre livre ?» Le Dieu de Rabbi Kushner était un Dieu qui n'était pas arrivé à être ce qu'il voulait vraiment être, comme être un Dieu pleinement bon, et un Dieu pleinement souverain, et avoir un contrôle absolu sur tout. Mais il n'était pas encore tout à fait là. Il était en cours. Cela a maintenant envahi l'Église évangélique. Nous avons maintenant des érudits évangéliques sans citation qui préconisent cela au sujet de Dieu, que Dieu ne sait pas. Je viens de lire quelques documents d'un séminaire évangélique d'un homme qui dit que Dieu ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. La raison pour laquelle il ne sait pas ce qui va se passer est que rien ne s'est passé et que vous ne pouvez rien savoir. Il est tout pris dans l'imagination de ce genre de raisonnement. Donc, soit vous croyez que Dieu n'est pas Dieu, il y a juste une puissance cosmique quelque part. Vous croyez que Dieu n'existe pas du tout, et c'est tout simplement personne multiplié par rien égale tout. Ou vous croyez que la souffrance du péché de la mort n'existe pas vraiment. Ce n'est qu'une illusion. Ou vous croyez que Dieu transcende tellement tout cela qu'il n'en est pas affecté, et par conséquent, vous le protégez de la responsabilité du mal. Ou vous croyez que Dieu est en cours. Et c'est le point de vue nouveau et populaire, que Dieu a vraiment de bons désirs, mais il n'est vraiment pas assez souverain pour arriver là où il veut arriver pour l'instant. Un autre point de vue que vous pouvez ajouter est tout simplement vieux. Dieu a fait le mal. Il y a des personnes qui enseignent cela. J'en lisais une partie cette semaine, que Dieu a fait le mal. Il a créé le mal à de bonnes fins. Il voulait arriver à certains buts, et il avait besoin de faire le mal pour y arriver. Alors il a créé le mal pour ces raisons-là. Rien de tout cela n'est vrai. Aucun d'entre eux. En dépit de ce que pensait Einstein, Dieu est personnel. Dieu est relationnel. Et Dieu est bon. Dieu existe. Il en va de même pour le péché et la souffrance, tout comme la mort. Et seul un imbécile voit cela comme une illusion. Dieu n'est pas au-delà du bien et du mal. Il n'est pas si transcendant qu'il ne soit pas pleinement conscient du bien et du mal, et s'occupe des deux. Dieu n'a pas de pouvoir limité pour qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut. Et il n'est pas comme nous qui luttons pour arriver quelque part, mais sans y arriver. Finalement, Dieu n'a pas créé le mal. Permettez-moi de vous le dire simplement. Dieu n'est pas responsable du mal. Ses créatures le sont. Tout, écoutez bien attentivement. Ce que Dieu a créé était vraiment quoi? Bon, tout. Ceci est affirmé dans toute l'Écriture. Dans le chapitre 1 de Habacuc, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Habacuc, chapitre 1, verset 13. 1 Corinthiens 14, 33 dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La confusion est le produit du péché. » 1 Jean 1, 5 dit « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. » Jacques 1, 13 dit « Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » 1 Jean 2, 16 dit « Tout ce qui est dans le monde, tout mal catégoriquement, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. » Psaume 5, 4 « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. » Psaume 5, 4 « En fait, sur une note positive, Ésaïe 6, le cri antiphonal des anges, était que Dieu est saint, saint, saint. Vous voyez un aperçu de cela, bien sûr, lorsque Jésus est venu dans le monde. Dieu dans la chair humaine. Il était saint, inoffensif, sans souillure, séparé des pécheurs. Dieu n'est pas mauvais. Dieu ne fait pas de mal. Il ne peut pas être tenté de faire le mal. Il ne tente jamais personne d'autre à faire le mal. Dieu n'est pas responsable du mal. La source du mal, la source du péché est en dehors de Dieu. Quand Dieu créa les anges et Dieu créa les humains, il leur a donné l'intelligence, il leur a donné la raison, il leur a donné le choix. Il y a une séquence. J'ai mis ces mots dans cet ordre, dans un but précis. L'intelligence leur a donné la capacité de comprendre les choses. La raison leur a donné la capacité de transformer cette compréhension en comportement. Le choix leur a donné la liberté de déterminer ce comportement. L'intelligence, la raison et le choix. En bout de ligne, avec ce qu'ils savaient, et avec la capacité qu'ils avaient de traiter ces informations, ils seraient amenés à faire un choix. Qu'ils soient anges ou hommes, ils auraient le choix, soit d'obéir à Dieu, soit de ne pas obéir à Dieu. Écoutez ceci. Désobéir à Dieu, c'était initier le mal. Le mal n'est pas la présence de quelque chose. Le mal est l'absence de justice. Vous ne pouvez pas créer le mal, parce que le mal n'existe pas en tant qu'entité créée. Il n'existe pas en tant que réalité créée. Le mal est un négatif. Le mal est l'absence de perfection. C'est l'absence de sainteté. C'est l'absence de bonté. C'est l'absence de justice. Le mal est devenu une réalité que lorsque les créatures ont choisi de désobéir. Le mal est apparu initialement, puis à la chute des anges, puis ensuite à la chute d'Adam et Ève. Mettez-le simplement de cette façon dans votre esprit. Le mal n'est pas une chose créée. Le mal n'est pas une substance. Le mal n'est pas une entité. Le mal n'est pas un être. Le mal n'est pas une force. Le mal n'est pas un esprit flottant. Le mal est un manque de perfection morale. Dieu a créé la perfection absolue. Partout où cela manque, le péché existe. Cela ne peut pas exister dans la nature de Dieu, ou dans tout ce que Dieu fait. Le mal naît lorsque les créatures de Dieu ne satisfont pas le standard de la perfection morale. Maintenant, laissez-moi aller plus loin. Dieu n'a pas créé le mal. Il n'a pas engendré le mal. Il n'a pas fait le mal. Mais écoutez attentivement. C'est très important. Dieu a décrété d'utiliser le mal dans le cadre de son plan éternel. D'accord? Il n'en est pas l'auteur. Il ne l'a pas fait exister. Ce serait impossible parce que Dieu est bon, totalement bon et seulement bon. Par conséquent, tout ce qui sort de lui est totalement bon et seulement bon. Dieu ne peut donc produire que du bien. Qu'est-ce que le mal, sinon l'absence de ce bien, qui est un choix fait par les raisonnements, sur la base des informations révélées à travers ses créatures? Mais Dieu n'a pas été pris au dépourvu. En fait, Dieu a décrété que le mal ferait partie de son plan. Il n'est pas le créateur du mal, et il n'est pas la cause du mal. Il n'a pas fait exister le mal dans un sens cosmique, et il ne l'a pas apporté, et ne fait pas exister le mal dans un sens personnel. Il n'est pas la cause du péché, ni la cause des péchés dans la vie des personnes, mais il l'utilise pour ses desseins. C'est pourquoi, dans Ésaïe 45, 7, notez ceci, vous pouvez le vivre. Il dit, je crée les ténèbres. Certaines traductions plus anciennes disent qu'il crée le mal. C'est une traduction vraiment médiocre et fausse. Dieu crée la calamité. Si vous lisez le contexte d'Ésaïe 45:7, il est clair que le jugement est la question. Dieu ne crée pas le mal, mais Dieu apporte le jugement sur le mal, créant ainsi la calamité par laquelle le mal est jugé. Maintenant, écoutez attentivement. Les Écritures, écrites par Dieu, attribuent toujours la culpabilité et la responsabilité de tout péché aux créatures, mais jamais à Dieu. C'est tout ce que nous savons, d'accord? Je vous ai emmené aussi profondément que possible. Il n'y a nulle part où aller. C'est tout ce que nous savons. Au-delà de cela, nous opérons dans la foi. Nous savons certaines choses. Nous savons que Dieu est saint, n'est-ce pas? Nous savons qu'il est trop pur pour regarder l'iniquité, qu'il ne peut tolérer le mal. Nous savons qu'il ne tente aucun homme, ni n'est tenté par aucun homme. Nous savons qu'il est saint, saint, saint. Toutes les choses que nous avons traversées. Aucun mal n'habite en lui. Il est toute lumière et aucune obscurité. Nous savons cela, nous croyons cela. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il n'est pas la source du péché. Nous savons cela, nous croyons cela. Le péché vient à l'existence lorsque le standard de la perfection morale n'est pas atteint. Et c'est un acte basé sur l'intellect, la raison et le choix fait par ses créatures. Maintenant, la question se pose alors. Pourquoi Dieu permettrait-il le péché? Allez donc, je ne peux que spéculer. Il n'y a pas de déclaration spécifique, mais je pense que vous pouvez faire une spéculation assez raisonnable, au-delà de laquelle je ne peux pas aller, et ne trouve aucune valeur à tenter d'aller. C'est ceci. Qu'est-ce que le péché venu dans le monde a provoqué? Cela a entraîné, je dirais, trois choses. Ce sont les trois raisons pour lesquelles je crois que Dieu a permis le mal. Premièrement, cela a permis le salut des pécheurs, n'est-ce pas? Dieu devait permettre le péché. Dieu a dû décréter le péché dans le plan, mais jamais l'auteur de celui-ci, afin qu'il puisse sauver les pécheurs. Pourquoi Dieu voulait-il sauver les pécheurs? Pour afficher des attributs d'affichage qui autrement n'auraient jamais été manifestes, n'est-ce pas? Comment Dieu va-t-il faire preuve de grâce s'il n'y a pas de pécheurs? Comment Dieu va-t-il faire preuve de miséricorde s'il n'y a pas de pécheurs? C'était une partie de la nature de Dieu que Dieu voulait afficher pour sa propre gloire pendant toute l'éternité. Ainsi, Dieu a fourni un moyen par lequel il pouvait démontrer la grâce, démontrer la miséricorde. Il voulait aussi montrer de l'amour, un amour qui va si loin qu'il peut atteindre même ses propres ennemis qui le haïssent. Comment va-t-il montrer cela s'il n'a pas d'ennemis? Ainsi, Dieu permet le mal afin qu'il puisse démontrer la grâce, la miséricorde, le pardon et le salut. Deuxièmement, il permet le mal afin qu'il puisse afficher sa colère, son jugement. Comment Dieu révélerait-il jamais cette partie de sa nature vraie et éternelle s'il n'y avait pas une occasion de juger les pécheurs? Donc, tout ce que vous pouvez faire est de regarder l'histoire rédemptrice. Vous voyez le salut des pécheurs, la damnation des pécheurs. C'est ce qui se passe, et vous voyez finalement un endroit préparé pour ceux qui sont damnés et un endroit préparé pour ceux qui sont sauvés. Vous devez donc conclure que le dessein éternel de Dieu était de sauver certains et de juger certains afin qu'ils puissent démontrer à la fois sa grâce et sa colère. Puis, j'aime y jeter une troisième pensée. Je crois que Dieu a permis le péché afin qu'il puisse le détruire à jamais. Tant que ces créatures ont une mesure de liberté, tant que ces créatures ont l'intelligence, c'est-à-dire qu'elles peuvent savoir et raisonner, c'est-à-dire qu'elles peuvent transformer cette connaissance en comportement et en choix, c'est-à-dire qu'elles peuvent choisir quoi faire, tant qu'ils ont cette capacité, ils risquent de ne pas respecter la norme, n'est-ce pas? Faire le mauvais choix. Il ne leur a pas fallu longtemps pour le faire. Nous ne savons pas combien de temps il a fallu avant que Lucifer fasse le mauvais choix devant Dieu. Nous ne savons pas combien de temps il s'est écoulé, même dans le jardin, avant qu'Adam et Ève ne fassent le mauvais choix. Mais c'est certainement avant qu'ils aient eu des enfants. Ils ont eu leurs enfants probablement vers l'âge de 100 ans, ou un peu plus. Donc, il y a la possibilité et le potentiel d'un mauvais choix ici. Une mesure de liberté donnée aux créatures, par laquelle elles peuvent choisir d'honorer Dieu, par laquelle elles peuvent choisir de déshonorer. Tant que cela est là, alors la réalité potentielle du mal existe quand le mauvais choix est fait. Je crois qu'une fois que le mauvais choix est fait, alors Dieu entre en action, et 1. Il peut démontrer sa grâce et son salut. 2. Il peut démontrer sa colère dans le jugement. Et 3. Il peut enfin détruire le mal. C'est presque comme si Dieu voulait que le mal revienne à la surface pour pouvoir l'éliminer. Qu'est-ce qui va se passer lorsque toute l'histoire rédemptrice sera terminée, lorsque tous les sauvés seront sauvés et que tous les perdus seront jetés dans l'étang de feu, puis la mort et l'enfer seront jetés dans l'étang de feu? Qu'est-ce que cela veut dire? Plus de mort, plus d'enfer et plus de jugement. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de péché. Quand vous allez au paradis, il n'y a rien là-bas qui ait l'air d'un monde pécheur, n'est-ce pas? Il n'y a plus de chagrin, plus de tristesse, plus de péché, plus de mort. Donc je pense que Dieu a décrété le mal dans son plan, sans le créer, pour ces trois raisons. Pour sauver les pécheurs, pour juger les pécheurs, et pour détruire une fois pour toutes, et pour toujours le mal. C'était toujours potentialisé. Tant que cela était possible, il faudrait qu'il remonte à la surface pour que Dieu puisse l'éliminer. Maintenant écoutez, sur la base de cette explication, je sais que cela vous semble simple, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour clarifier dans mon esprit au fil des ans. Je veux dire, ces dernières années, je l'ai certainement compris. Mais en tant que jeune homme, vous êtes aux prises avec beaucoup de choses. Pour résumer, il n'y a pas de cause externe au péché, d'accord? En dehors de la créature, il n'y a aucune force qui flotte là-bas, que Dieu a créée. C'est l'absence de perfection. Il n'y a pas de cause à effet déterministe, c'est-à-dire un certain fatalisme. C'est juste un choix. Dans le décret de Dieu, il a permis ce choix. Savez que ce choix serait fait de la manière dont ils avaient été faits. Planifiez cela dans le décret, afin de montrer à la fois sa grâce, sa colère, et de mettre un terme définitif, éternel au péché. Mais maintenant, notez ceci. Celui qui a toujours choisi le mal en était la source. Dans le cas de Lucifer, il était la source du mal au départ, dans le royaume angélique, et comme nous le verrons, il a obtenu qu'un tiers des autres anges s'entendent avec lui et se joignent à lui. Maintenant, puisque les anges ne procréent pas, Lucifer n'a pas péché et transmis le péché, parce que les anges ne se marient pas. Comme Jésus l'a dit, ils ne procréent pas. Ils ont tous été créés en même temps. Mais quand Satan a fait un mauvais choix, il a réussi à séduire un tiers du reste des anges. Il y en a 10 000 fois 10 000 milliers de milliers. Donc vous pouvez multiplier tout cela, et vous n'êtes probablement pas encore là. Donc, il y a 2 fois plus de saints anges que de démons depuis qu'un tiers est tombé. Les 2 tiers non. Mais ils sont tombés par choix. Nous verrons ce choix lorsque nous entrerons dans les prophètes. La même chose s'est produite avec Adam et Ève, mais cela a eu un effet différent. Avec les anges, ils ont tous eu leur propre péché, et personne ne l'a transmis à quelqu'un d'autre, parce qu'ils ne procréent pas. Dans le cas d'Adam et Ève, quand Adam et Ève ont fait le mauvais choix, toute l'humanité est partie avec eux, parce que nous sortons tous des reins d'Adam et Ève. Ainsi, la source du mal est en dehors de Dieu, la source du mal est la créature. Maintenant, revenons au chapitre 3 de Genèse. Au moins nous pouvons couvrir les 3 premiers mots, peut-être en partie. Ce sont de gros sujets. Le serpent, grand sujet. Maintenant, le serpent. Nous nous arrêterons à ce point. Cela me rappelle que lorsque j'enseignais les Romains, et que je suis allé commencer le livre des Romains dans mon premier message, j'ai dit « Lisons notre texte ». Le premier mot des Romains, Paul, j'ai dit « D'accord, arrêtons-nous là. Nous avons passé je ne sais combien de temps à parler de Paul. C'est un peu comme cela. Vous ne pouvez pas simplement lire « serpent » et continuer. Quel est ce serpent? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans le jardin, tout va bien. Toutes sortes de créatures sont là qui ont été faites par Dieu. Il y a des animaux de toutes sortes. Il y a des oiseaux et du bétail. Il y a des espèces d'animaux rampants, c'est-à-dire des animaux qui marchent au ras du sol. Cela ne veut pas dire qu'ils glissent. Cela signifie simplement qu'ils étaient au ras du sol. Cela pourrait signifier des animaux aux pattes courtes, comme je l'ai souligné. Il peut s'agir d'insectes, etc. Il y a ceux qui sont plus grands. Il y a ceux qui sont dans le ciel, à savoir les oiseaux. Il y a ceux qui sont dans l'eau. Dieu a créé toutes ces créatures. Nous rencontrons ici un serpent, Nachash, en hébreu. C'est un nom pour reptile. Nous ne savons pas à quoi ressemblait ce reptile. Je pense que la plupart des personnes supposent que cet animal était un serpent rampant. Vous voyez de petites images d'un serpent enroulé autour d'un arbre, ou suspendu à une branche, peu importe, glissant vers le haut, et un peu soutenu comme un cobra. Mais nous ne savons pas vraiment que c'est le cas. Vous remarquerez plus tard dans le chapitre 3, verset 14, qu'une partie de la malédiction sur ce serpent était qu'il allait aller sur son ventre, et manger de la poussière. Donc, si c'était la malédiction, nous pouvons supposer qu'à ce moment particulier où le serpent est apparu pour la première fois dans le jardin, il ne se traîne pas encore sur son ventre en mangeant de la saleté. Cela faisait partie de la malédiction. Donc, dans une certaine mesure, cela paraît comme un animal debout. Le mot nashash, en hébreu, se rapporte au verbe siffler, qui est associé au son que font les reptiles. Il y a un autre mot de l'Ancien Testament utilisé pour parler de reptiles, de tanins, et ils sont utilisés de manière interchangeable. Il y a une section du chapitre 7 d'Exode, versets 9 à 15, où Moïse interagit avec les magiciens à la cour de Pharaon. Vous vous en souvenez? Ils jettent leur bâton, et ils deviennent du tanin. Mais le bâton de Moïse devient un serpent, appelé Nashash. Ainsi, à partir de ce texte, nous pouvons conclure qu'ils sont utilisés de manière interchangeable, bien que le mot tanin soit le mot qui apparaît pour le dragon ou le monstre marin. Nashash est donc une sorte de reptile comme le tanin. Cela pourrait être un serpent. Bien sûr, après la malédiction, après cela, et même après le déluge, nous ne savons pas à quelle forme les reptiles ont pris. Nous ne savons pas à quel reptile ont pris l'arche, sont donc descendus, et quels autres ont été détruits. Mais une sorte de reptile, une sorte de dragon, une sorte de serpent. Quand vous entrez dans le Nouveau Testament, très intéressant, Satan est appelé dans Apocalypse 12. Nous y reviendrons plus tard. Apocalypse 12, Apocalypse 20. Il est appelé le serpent et le dragon à la fois. Ainsi, en hébreu, il s'appellerait le Nashash et le Tanin. Donc, parfois, c'est un dragon. Parfois, c'est un serpent. Nous devons donc en conclure que nous ne savons pas ce que c'était. C'est une sorte de dragon reptile que vous préféreriez appeler un rapace, si vous savez ce que cela signifie. Une sorte de créature de type dinosaure. C'est vraiment tout ce que nous savons de la créature. Mais le serpent est comparé à d'autres animaux. Regardez le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, ce qui indique que cet animal appartient au règne animal. Ce n'est pas une sorte de création singulière. Ce n'est pas seulement un animal unique. Cela fait partie de ce que Dieu a fait au chapitre 1, versets 24 à 28, référencé à nouveau dans les versets 19 à 20 du chapitre 2. Toutes les diverses bêtes des champs que Dieu a créées, c'est l'un d'eux. C'est un animal physique réel. C'est un vrai animal. Mais ce ne serait pas un animal que nous connaissons. C'est un reptile maudit d'avance. Quel que soit cet animal, il s'est retrouvé sur son ventre, en train de manger de la saleté, après la malédiction. Donc, une sorte de reptile parlant, plus haut et différent de ce que l'on pourrait supposer être un serpent. Maintenant, ce n'est pas n'importe quel autre reptile parce que celui-ci parle. Maintenant, j'ai lu un commentateur qui a dit, vous savez, qu'il y avait peut-être beaucoup d'animaux qui parlent dans le jardin. J'ai pensé quoi? Ce n'est pas dans la Bible. Il a continué pendant environ 3 paragraphes. Il n'y a rien dans la Bible à ce sujet. Il a un complexe du docteur Doolittle ou quelque chose comme cela. Rien n'est dit dans la Bible sur les animaux qui parlent. Il a évoqué, qu'en est-il de l'âne de Balaam? L'âne de Balaam n'a jamais dit un mot jusqu'à ce que Dieu ait parlé à travers lui à une occasion. Non, il n'y a pas d'animaux qui parlent dans le jardin. Mais il y a des merveilles dans le jardin, et je pense qu'Adam et Ève sont toujours en train de découvrir les merveilles. Et donc Ève n'apparaît pas. Nous n'avons aucune information réelle à ce sujet. Elle ne semble pas trop choquée lorsque ce reptile s'approche et entame une conversation. Mais il y a quelque chose de différent à propos de ce serpent en particulier, parce qu'il a dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Cet animal particulier connaît Dieu. Cet animal particulier a une personnalité. Cet animal particulier parle avec intelligence. Cet animal particulier a un esprit sournois, malveillant et mauvais. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une fable. Rien ici ne dit « Laissez-moi vous dire, laissez-moi inventer une histoire pour illustrer comment le péché est venu. Ce n'est pas marqué de cette façon. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une légende avec une morale. Il n'y a pas de morale. Et si c'est une fable, comment maudissez-vous une fable au verset 14? Dieu a maudit le serpent. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une parabole. Les personnes disent, c'est une parabole avec une morale. Quelle est la morale? Il n'y a pas de morale. Les rabbins juifs ont dit, J'en ai lu plusieurs. Ils ont dit que le serpent ne parlait pas vraiment à Ève, mais que l'écrivain, Moïse, utilise un serpent comme symbole des mauvaises impulsions qui montent dans le cœur d'Ève. Vraiment ? C'est donc juste une sorte de manière symbolique de se référer à des choses qui se passaient dans l'esprit d'Ève. Vraiment ? Alors pourquoi Dieu a-t-il maudit le reptile ? Où a-t-il dit cela ? Pourquoi les personnes ne peuvent-elles pas simplement prendre la Bible pour ce qu'elle dit ? Elle était dans le jardin, un jour, un reptile s'est approché d'elle et lui a dit « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il était tellement convaincant, elle n'a même pas semblé reculer. Elle est juste entrée dans la conversation et a dit « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Et ils ont entamé une conversation. Vous savez ce que je pense ? Je pense que c'est exactement ainsi que cela s'est passé. Si cela n'a pas été le cas, alors nous ne pouvons pas faire confiance à la parole de Dieu. Mais ne venez pas me dire que vous croyez la parole de Dieu si vous ne le croyez pas. Maintenant, cette créature n'était pas comme n'importe quelle créature. Remarquez au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Maintenant, vous avez un reptile. Nous ne parlons pas. Ce n'est pas comme si les serpents étaient plus sournois que les autres animaux. Non, non, non. Les serpents ne sont pas plus sournois que tous les autres animaux. Rusé signifie subtil, intelligent, sage. Je ne pense pas que les serpents soient aussi intelligents. Avez-vous déjà rencontré un serpent intelligent? Reptile intelligent? Subtil, rusé? Ils ne sont ni plus subtils ni plus rusés que tout autre prédateur, tout autre animal qui chasse. La ruse ne fait pas référence à la caractéristique des serpents. Il ne compare pas les serpents aux vaches, par exemple, ni les serpents aux lions, ni les serpents à autre chose. Il compare ce reptile à tous les autres animaux et dit que celui-ci est plus sage que tout autre animal. Les serpents, en fait, sont de merveilleuses créatures. Je veux dire, ce sont des créatures vraiment incroyables. Vous lisez Proverbes, chapitre 30, versets 18 et 19, et vous avez la merveille d'un serpent sur un rocher. Mais c'est un animal individuel, astucieux, subtil, malveillant, maléfique, méchant, parce qu'il est utilisé par une intelligence surhumaine, pour conduire Ève et Adam dans un choix pour le mal, un choix que cette personnalité a déjà fait. Écoutez attentivement. La personnalité intérieure de cet animal connaissait l'effet du choix qu'Adam et Ève allaient faire. Adam et Ève n'en avaient aucune idée. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passerait lorsqu'ils feraient ce choix. Vous voyez. Lorsque Lucifer a fait ce choix pour la première fois, il l'a fait parce qu'il a dit « Je veux être comme Dieu ». Il a découvert qu'immédiatement il est devenu aussi différent de Dieu qu'il est possible de l'être. Dieu est saint. Il est devenu méprisable. Il dit à Ève « Voyez la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que vous mangiez. C'est parce que si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. » Il les emmène simplement à travers le même scénario exact, mais il sait exactement quel en sera l'effet. Il ne comprend pas l'aspect procréateur, mais il comprend que s'ils pêchent, ils vont expérimenter exactement ce qu'il a vécu. Le désir d'être comme Dieu devient la réalité d'être aussi différent de Dieu qu'il est concevable. Et ce qu'Ève a découvert, c'est qu'elle pensait qu'elle pourrait être comme Dieu, et s'est retrouvée dans la même situation, aussi différente que possible de Dieu. C'est un serpent subtil. C'est un serpent qui déteste Dieu. C'est un serpent qui est en colère contre la circonstance dans laquelle il s'est trouvé. Ce Satan, ce dragon, ce serpent. Il veut tirer cette merveilleuse nouvelle création. Satan doit avoir regardé la création d'Adam et Ève. Ce n'est pas quelque chose que j'ai connu. Les anges ne procréent pas. Donc ils se multiplient et remplissent la terre, reconstituent la terre et la souveraineté sur ces créatures merveilleuses. Vous savez... C'est incroyable pour vous et moi d'aller dans un zoo, mais imaginez des êtres angéliques errant dans les premiers jours d'Éden. Quelle merveille Dieu a faite! Le Satan, malveillant et méchant, et ses autres domaines, voulant tout faire tomber dans l'iniquité, et c'est ce qui a conduit à ce scénario. Cette personnalité avait des connaissances plus naturelles. Il était au courant de l'interdiction. Il savait que Dieu avait dit de ne pas manger de cet arbre. Il a affirmé non seulement savoir ce que Dieu a dit, écoutez, il a prétendu en savoir plus qu'Ève. Il prétend savoir plus qu'Ève. Au verset 4, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez certainement pas. Je sais plus que toi, Tu penses que tu vas mourir? Non, j'en sais plus que toi. » Il prétend savoir plus qu'Ève ne le sait. Ses pensées sont moralement misérables. Les serpents n'ont pas de pensée morale. Les reptiles n'ont pas de pensée morale. Ils ne peuvent pas porter de jugement moral. C'est une créature qui a un but mauvais. Le mal opposé à Dieu. Le mal opposé à l'homme. Et il offre à Ève la promesse d'une bénédiction sans égale. Je veux dire, quoi de mieux que d'être comme Dieu? Mais il sait que lorsque vous cherchez à être comme Dieu, le résultat final est la honte, la dégradation, la misère et la damnation. Il le sait déjà parce que c'est ce qu'il a vécu. Le fait qu'il ait été maudit indique qu'il était un être moral et responsable. Maintenant, qui était cette créature? Qui était-ce? Allez jusqu'au bout de la Bible. C'est pourquoi vous devez suivre tout le conseil de Dieu, parce que sinon vous n'obtenez pas vraiment l'identification claire. Rien n'est dit, d'ailleurs, dans Genèse 3 à propos de Satan. Satan n'est jamais mentionné dans Genèse 3. Donc, nous allons à la fin de la Bible pour découvrir qui il est. Le livre de l'Apocalypse, verset 9, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Il y en a beaucoup ici, mais nous allons simplement passer au verset 9 pour gagner du temps. Ici, vous retrouverez ces deux termes, empruntant en quelque sorte à l'hébreu ou dans l'Ancien Testament. Il s'appelle Nachash, et Tanin, qui est à la fois serpent ou reptile et dragon. Le verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant, il y a une désignation très claire. Qui est ce serpent? Qui est ce dragon? Qui est cet animal de l'ancien qui trompe le monde entier? Ce n'est autre que le diable et Satan. Là, il est clairement identifié. Maintenant, passez au 20e chapitre de l'Apocalypse et au verset 2. Le verset 1 peut en fait commencer. Un ange. C'est le temps du royaume millénaire. Après la seconde venue et le jugement du Christ décrit au chapitre 19. Descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Donc vraiment, il n'y a aucun problème à identifier de qui il s'agit, car il est identifié à la toute fin, quand il est temps pour Dieu de prendre le relais et de mettre fin à ses entreprises. C'est un serpent ou un dragon. Je pense que la combinaison de ces deux mots utilisés dans le Nouveau Testament avec les deux mots hébreux utilisés de manière quelque peu interchangeable, indique que vous n'avez pas simplement un serpent ici. Vous avez une sorte de reptile, qui pourrait être appelé un serpent d'une part et un dragon de l'autre. La différence étant que quand nous pensons à un serpent, nous pensons à une créature sans pattes. Quand nous pensons à un dragon, nous pensons à une créature avec des jambes, une sorte de créature étonnante et merveilleuse, dont nous n'avons peut-être aucune indication dans le monde créé aujourd'hui. Maintenant, vous avez un commentaire du Nouveau Testament. Je vais terminer avec ceci. Nous avons un commentaire du Nouveau Testament sur Genèse 3 à deux endroits. 2 Corinthiens 11. Cela continue à nous aider à comprendre qui est ce serpent. Aussi pour démontrer la véracité de ce récit. Dans 2 Corinthiens 11, 3, Paul dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Il y a la même idée de la ruse. Il y a ce serpent, et il y a encore Ève. En bout de ligne, c'est une affirmation du Nouveau Testament à la réalité du récit de l'Ancien Testament. Ce n'est pas, encore une fois, une légende. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une parabole. C'est un vrai récit. Le serpent a trompé Ève par sa ruse. Cela confirme et commente simplement ce que nous voyons dans Genèse, chapitre 3. C'est également vrai dans 1 Timothée 2. Je veux que vous regardiez les versets 13 et 14, que le modèle de ce qui s'est passé dans le jardin est soutenu par le Nouveau Testament. Verset 13 de 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 13. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, d'accord? Vous voulez vous souvenir de cela? Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Adam n'a pas été trompé. Qui a été trompé? Ève. Elle était là. Elle a été trompée. Et Adam dit simplement, « Si tu veux faire cela, je vais le faire aussi. Et je suis intervenu. Il n'y a pas eu de tromperie. Cela confirme l'histoire exactement telle qu'elle se présente dans la Genèse. Est-ce important? Bien sûr, c'est important, car le fait même qu'il s'agisse d'une représentation historique exacte confirme le fait que l'homme est la tête de la femme, car une femme qui n'est pas sous l'autorité de son mari, agissant de manière indépendante, est plus susceptible de tromperie. Donc Adam a été créé en premier, puis Ève. Ce n'est pas Adam qui a été trompé, mais la femme complètement trompée est tombée dans la transgression. Ainsi, nous avons là dans le Nouveau Testament l'identité claire de qui était le serpent et l'affirmation de cette tentation par le diable. Maintenant, que pouvons-nous dire en résumant tout cela? La personnalité, disons chez le reptile, n'est pas identifiée dans Genèse 3, mais on peut le savoir. Il y a là une vraie personnalité. Il y a là une personnalité opposée à Dieu, qui remet en question la parole de Dieu, remet en question le caractère de Dieu, attaque Dieu, et dit que Dieu ne veut tout simplement pas que vous sachiez tout ce qu'il sait parce qu'il est égoïste, en effet. Alors voici une personnalité malveillante, méchante, vicieuse, opposée à Dieu, opposée à l'homme, car il veut plonger l'humanité dans la même misère que lui. Il ne va pas à Ève en disant « Quoi que tu fasses, Ève, ne désobéis pas à Dieu. Quoi que tu fasses, Ève, ne cherche pas à être comme Dieu. Je suis le témoignage vivant que c'est un mauvais choix. Il n'y a aucun élément de cela chez Satan. Il est misérable et malveillant de haut en bas, sur l'envers. Si vous pouvez utiliser ces termes d'un être spirituel, il ne cherche que le mal. Ainsi, il se précipite pour détruire l'homme. Il est trompeur. Il est en train de mentir. Il est hostile. Il est méchant. C'est un tueur. Il veut provoquer la mort non seulement de tous ses anges qui l'ont accompagné, mais la mort de toute la race humaine. Aussi puissant qu'il soit, aussi méchant qu'il soit, aussi mauvais qu'il soit, écoutez ceci, il est soumis au contrôle souverain de Dieu. Maintenant écoutez, sa tentation d'Ève n'implique aucune contrainte de sa part. Il ne peut pas la faire pécher, il n'a pas ce pouvoir. Maintenant laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Le diable ne peut toujours pas vous faire pécher. Vous entendez cela? Il ne peut pas vous faire pécher. Lorsque vous péchez, vous emportez la responsabilité. Il n'a pas le pouvoir de vous faire pécher. Il n'avait pas le pouvoir de faire pécher Ève. Elle a péché par son propre choix. Adam et Ève sont entièrement coupables de leur péché. C'est une puissance malveillante, mais il est soumis au contrôle souverain de Dieu. Nous verrons cela lorsque nous examinerons l'histoire de Job, la semaine prochaine. Son pouvoir a ses limites. Dieu dit que vous avez tellement de place au-delà de laquelle vous ne pouvez pas aller. L'une des choses dans lesquelles il est limité est son pouvoir. Pensez-y de cette façon. Il pensait qu'il pouvait être comme Dieu. Mais devinez quoi? Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Et il n'est pas omniprésent. Il n'est pas immuable. Il n'est pas souverain. Il n'est pas du tout comme Dieu. Il est tout aussi différent de Dieu qu'une créature pourrait l'être. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Comme l'a dit Martin Luther, le diable est le diable du Seigneur. Il fonctionne selon les desseins souverains de Dieu pour réaliser les choses qui sont dans le décret éternel de Dieu pour le salut des pécheurs, la damnation des pécheurs et le triomphe et la destruction ultime sur le mal. Maintenant, le mot principal pour lui. Le nom principal est Satan. Il s'appelle ainsi comme je viens de vous lire dans Apocalypse 12:9 et Apocalypse 20, verset 2. Mais il est également appelé cela dans l'Ancien Testament. C'est vrai. Trois fois en trois passages, il est identifié par le nom de Satan. Satan, pour vous donner un petit aperçu de la semaine prochaine, Satan est un mot qui signifie adversaire ou ennemi. Il est l'adversaire de Dieu et il est l'adversaire de l'homme. Il pourrait être appelé l'adversaire avec un article défini. L'adversaire. Il l'est les premières fois. La troisième fois qu'il est mentionné, 1 Chronique 21. Il est appelé adversaire, et cela est simplement un nom propre pour l'identifier. Et il n'est plus l'adversaire. Il est l'adversaire avec un S majuscule, Satan. Dès lors, il est Satan. Il est l'adversaire de Dieu et l'adversaire des hommes. 2 Corinthiens 2:11 dit « Nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, ce que nous allons faire la prochaine fois, c'est que je vais vous faire parcourir l'Ancien Testament et vous montrer comment Satan est présenté dans l'Ancien Testament. Je vais vous montrer aussi comment il est tombé. Pourquoi il est tombé? Une fois que nous comprendrons le serpent, nous nous lancerons dans son approche d'Ève, avec une plus grande compréhension, et cela nous aidera également dans notre propre lutte. Très bien. Prions. Père, ta parole est claire à nouveau alors que la vérité nous est ouverte. Nous te remercions pour la puissance qui est en nous en Christ, qui nous permet de faire beaucoup plus que tout ce que nous pourrions demander ou penser. Nous te remercions que Satan ait été placé sous nos pieds, comme nous le dit le livre des Romains. Nous te remercions qu'il est un ennemi vaincu. Merci que nous puissions lui résister et qu'il fuira littéralement loin de nous dans la peur. Quelle grande confiance! Merci pour la puissance intérieure du Saint-Esprit. Nous te remercions pour l'épée de l'Esprit, le maniement de la vérité qui nous fait triompher. Nous te remercions de nous avoir montré que tu es un bon Dieu, seulement bon, toujours bon, et totalement bon, et que le mal ne vient pas de toi. Bien que tu aies dans ton décret une place pour le mal, afin que tu puisses exposer ta gloire, qu'en fin de compte tu puisses apporter le potentiel du mal à la réalité, afin qu'il puisse être détruit à jamais. Nous aspirons à ce jour où nous vivons dans le monde parfait, où il n'y a pas de péché, pas de chagrin, pas de souffrance et pas de mort, parce que le péché n'est plus. Jusqu'à ce jour, puissions-nous continuer à triompher pour vaincre le méchant, par le pouvoir de ta parole. Nous te remercions au nom du Sauveur. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.